Vous écoutez France Culture. Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali. Bonjour.
Bonjour.
Comme chaque dimanche avec Jacques Attali, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler du sens des choses et réfléchir plus particulièrement à ce que sera notre avenir à l'horizon 2050. Alors aujourd'hui, Jacques, nous avons choisi de parler de l'avenir de la démocratie.
Oui, parce qu'il y a des choses qu'on croit acquises, définitivement installées dans nos vies, dans la vie de nos enfants et nos petits-enfants, comme la démocratie. Or, elle n'est pas du tout acquise. On peut très bien imaginer que même dans les pays les plus stables, un jour revienne le temps de la dictature, de l'occupation, de l'obscurantisme. Mais aussi, on peut imaginer que le marché ayant globalement pris le pouvoir sur l'État, que l'ensemble des instruments dont dispose la puissance publique ayant disparu, que les décisions à prendre devenant de plus en plus complexes, que les citoyens se demandant de plus en plus pourquoi on leur pose la question de leur demander leur avis sur tel ou tel sujet, on peut penser qu'un jour viendra où la démocratie aura perdu toute utilité, à moins de lui redonner du sens.
Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui le philosophe Bernard Stiegler, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Il est actuellement directeur du département du développement culturel au Centre Georges Pompidou, où il dirige également l'Institut de recherche et d'innovation, l'IRI, créé à son initiative en avril 2006. Bernard Stiegler a été directeur de recherche au Collège international de philosophie, puis il a dirigé l'INA et ensuite l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique-musique. Bernard Stiegler a publié dernièrement un essai en collaboration avec Marc Crépon intitulé « De la démocratie participative, fondements et limites chez Mille et une nuits ». Il est également l'auteur d'un ouvrage « La télécratie contre la démocratie ». Bernard Stiegler, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de parler de l'avenir, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'en France, la démocratie est acquise ?
Pas du tout. Et c'est même une question de savoir si elle existe. Vous savez bien que vous évoquiez dans l'introduction ce livre de la démocratie participative, fondements et limites, écrit avec Marc Crépon, qui est en fait une deux conférences que nous avons faites à l'association Ars Industrialis, dont je suis par ailleurs président. Et nous avons souligné, en particulier dans ce livre, que c'est un peu bizarre de parler de démocratie participative, parce que la démocratie est participative, ou ça n'est pas une démocratie. On sait bien que c'est Ségolène Royal qui a lancé cette problématique pendant la campagne électorale. Or, lancer cette thématique sans interroger le caractère, que je dirais, pléonastique de la démocratie participative, nous a semblé étrange. Et en réalité, il nous semble que cette problématique de la démocratie participative signifie refonder la démocratie, reconstituer une démocratie à un moment donné où il n'y a peut-être plus de démocratie et où menace énormément l'oligarchie qui est en train de chercher à se substituer à la démocratie, quitte à produire des ersatz de démocratie, dont d'ailleurs la démocratie participative pratiquée par Ségolène Royal m'apparaît être un cas parmi d'autres. Bon. Voilà, donc nous ne pensons pas du tout, Ars Industrialis et moi en particulier, que la démocratie soit une chose acquise. De toute façon, la démocratie est par nature menacée. Je dirais que c'est aussi sa force d'être exposée à cette menace, parce que c'est comme ça qu'elle se renouvelle en permanence. Mais elle doit être sans cesse défendue, protégée, entretenue. Et elle doit être entretenue en particulier par une pratique des instruments de la démocratie, de ce que j'appelle l'organologie politique. J'emploie un mot comme ça, tout à coup un peu étrange. L'organologie, ça vient de la musique. Vous avez signalé que j'étais directeur de l'IRCAM. Bon, si je suis venu à l'IRCAM, c'est parce que je m'intéresse à la musique. Mais dans la musique, outre le plaisir que j'y trouve, ce que je viens chercher, c'est une pensée technique de l'art du temps qu'est la musique. Or, il se trouve que la pensée est aussi un art du temps, et que je pense qu'il y a également des technologies de la pensée, ce que j'appelle des no-techniques, technologies de l'esprit. Ces technologies de la pensée sont aussi les technologies de la politique. L'écriture est la condition de la démocratie. Je parle de l'écriture alphabétique. La démocratie apparaît en Grèce ancienne. Il faut d'ailleurs faire très attention de ne pas produire un grand récit de la démocratie en parlant de la démocratie grecque et de la démocratie industrielle et de la démocratie contemporaine comme si c'était la même chose, parce qu'il y a des âges de la démocratie, d'une part, et d'autre part, politique ne veut pas dire nécessairement démocratie. Je l'ai dit, moi, dans ce livre et dans la conférence dont il est extrait, je ne m'interdis pas d'envisager une fin de la démocratie et une poursuite de la politique par notre organisation que la démocratie. Je m'autorise à le penser, je ne le souhaite pas du tout. Je me bats aujourd'hui pour sauver la démocratie que je crois extrêmement menacée. Et je crois qu'elle est très menacée en particulier par une mnémotechnologie qui n'est plus l'écriture, parce que l'écriture a régressé aujourd'hui dans le statut organologique qui permet l'organisation des sociétés. J'insiste d'ailleurs sur ce fait que organologie contient organe et organisation suppose organe aussi, c'est-à-dire que penser une organisation sociale, c'est penser, dans mon esprit, organologiquement, les conditions techniques des relations entre les individus et entre les groupes. Ces conditions techniques sont liées à des mnémotechniques, ou à ce que Rifkin appelle aussi des technologies relationnelles, Jeremy Rifkin, le penseur américain. Et ces mnémotechniques sont devenues, depuis le 19e siècle et surtout le 20e siècle, des mnémotechnologies. Je parle des technologies de communication, des technologies d'information, que j'appelle plus volontiers des technologies cognitives et technologies culturelles, qui sont aujourd'hui au service quasiment exclusif des grandes industries culturelles, des grandes industries de programmes, de ce qu'on appelle aussi les industries de services, et qui, malheureusement, développent ces mnémotechniques, non pas du tout, ou ces mnémotechnologies, non pas du tout dans le sens d'une intensification de l'intelligence et de la vie sociale, mais plutôt d'un contrôle et d'une destruction de cette intelligence et de cette vie sociale. Ça a pour conséquence ce que M. Lelay a un jour, comme ça, lancé un peu imprudemment. Nous sommes là pour vendre du temps de cerveau disponible. J'ai beaucoup commenté personnellement. J'avais écrit moi-même, en 2000, sortant de l'INA, que TF1, à l'époque, vendait le temps de conscience 20 centimes de l'heure, 20 centimes de francs. L'euro n'était pas encore en vigueur. Et il se trouve que Patrick Lelay a ensuite fait cette déclaration, qui est une mise en évidence de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la conscience est devenue un marché, et en fait, elle est devenue donc du temps de cerveau sans conscience. Car une conscience ne peut pas être à vendre. Une conscience est inaliénable, sinon ça n'est plus une conscience. C'est le problème de la majorité et de la minorité dont parlait Emmanuel Kant dans un texte fameux qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?». Nous vivons aujourd'hui un paradoxe. Nous avons une technologie de l'esprit incroyablement puissante. Quand vous pensez que tout ce que Internet rend possible, bon, à commencer par ce que permettent Google et Wikipédia. Tous les intellectuels français, pas tous, mais beaucoup crachent dessus. Je pense qu'ils sont totalement irresponsables. Ce sont des instruments intellectuels fabuleux. Moi, je les utilise tout le temps. Je ne m'en cache pas du tout, j'en ai pas honte. Mais en même temps, nous voyons bien comment ces technologies sont mises au service aujourd'hui. Je ne parle pas simplement de Google et Wikipédia, mais de l'ensemble organologique à l'intérieur. Ce qu'on appelle les technologies numériques, à l'intérieur desquelles tout ça se développe, c'est mis au service de ce qu'on appelle le user profiling, c'est-à-dire le profilage des utilisateurs, le contrôle, la standardisation, bref, la diminution de la conscience et l'augmentation de la disponibilité du cerveau. Le cerveau, nous partageons le cerveau avec la limace. Une limace, c'est un cerveau aussi. Il n'y a pas beaucoup de neurones dans un cerveau de limace, une cinquantaine ou une centaine. Nous en avons des milliards. Mais il y a quand même un cerveau. Je veux dire par là que tout être vivant animal est doté d'un système nerveux. Ce qui fait que nous sommes des êtres humains, ce n'est pas que nous avons un système nerveux, c'est que nous avons une conscience. Or, la conscience peut s'élever avec les technologies de l'esprit ou au contraire se contrôler. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans une situation comparable à celle qui sépare les grands empires orientaux de la démocratie grecque. L'écriture en Mésopotamie, en Égypte, on pourrait dire aussi en Chine impériale, est une technologie de contrôle des esclaves, des flux de marchandises, de la monnaie, etc. Bon, de production de la monnaie également. Et ne sert pas du tout à élever le niveau collectif, mais à asservir les corps en soumettant ces corps innombrables, les corps d'esclaves en l'occurrence, aux esprits très élevés d'ailleurs, de ce qu'on appelle à cette époque-là le pharaon, le prêtre-roi, les scribes, donc un pouvoir intellectuel extrêmement concentré. Et puis avec la Grèce ancienne, il y a une révolution qui se produit. Cette révolution n'est pas une révolution comme la révolution française, celle des sans-culottes, ça n'est pas une révolution comme la révolution anglaise de Cromwell, c'est la révolution d'une technique, c'est-à-dire la dissémination subitement de l'écriture dans toute la société, avec une transformation de cette écriture. Eh bien, ce que nous vivons en ce moment est comparable à cela, c'est-à-dire que avec la numérisation qui est en train de se produire, nous vivons une révolution très importante, où le modèle qui vient de la télévision et qui a imposé à la vie symbolique, à l'échange, le partage producteur-consommateur, qui permettait dans le monde industriel les économies d'échelle, et qui vient de l'industrie lourde du 19e siècle, ce modèle est en train d'exploser sur Internet, parce que sur Internet, il n'y a pas des producteurs d'un côté, des consommateurs de l'autre, il y a des contributeurs. Tout le monde contribue, plus ou moins. Mais le modèle industriel du 19e et du 20e ne fonctionne plus. Là, il y a une chance formidable d'inventer une nouvelle organologie politique et donc une nouvelle démocratie, de relancer le combat démocratique. Mais il y a aussi le danger d'utiliser ces technologies pour optimiser encore plus les technologies de contrôle. Donc nous sommes dans une situation d'alternative et donc de lutte.
Jacques Attali.
Est-ce que la démocratie au sens traditionnel, telle qu'aujourd'hui celle s'installe, à savoir la démocratie représentative, donnant le pouvoir à une majorité pendant un certain temps, vous paraît véritablement avoir un poids sur le réel? Ou est-ce qu'elle n'est qu'une une apparence dans un univers qui est emporté par les règles de la globalisation et où qui que ce soit qui soit au pouvoir ne soit obligé que de faire ce que le marché décide? D'une part, et d'autre part, avant d'en venir aux nouveaux médias qui, en effet, ont cette double face d'être à la fois des instruments de surveillance et de contrôle, mais aussi des instruments de participation réelle et de libération, restons un instant aux technologies anciennes, c'est-à-dire à la télévision. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi êtes-vous si violent quand vous dites que la télévision est aujourd'hui, a été, et encore plus, en particulier sur les enfants, une machine à détruire la conscience ?
Peut-être commencer par là. Le 19e siècle est le siècle d'une très grande révolution industrielle qui est accompagnée par un discours sur l'éducation qui commence avant même la révolution industrielle, avant même la révolution française avec Condorcet, qui se développe avec Guizot, par une politique. On a tendance à oublier Guizot à tort parce qu'il a joué un rôle très important, qui poursuit d'ailleurs au niveau d'une politique d'État quelque chose que dès Luther et Ignace de Loyola, l'Église portait déjà, c'est-à-dire le souci d'éduquer collectivement.
Dès Gutenberg, en fait. Dès l'imprimeur.
Dès Gutenberg, absolument. Absolument. Et ce processus, au XIXe siècle, avec Jules Ferry, c'est évidemment très connu, devient une des premières charges de l'État. L'État a en charge la protection de la nation avec une armée, une politique militaire, etc. La sécurité civile, donc la police, le ministère de l'Intérieur, et l'éducation. Et pas seulement cela, mais notamment l'éducation. Et l'éducation devient une part très très importante du budget national. C'est un investissement sur l'avenir que tout à coup l'État fait. Pourquoi ? Pour faire en sorte que tous les petits paysans de l'époque, car à l'époque n'oublions pas que les petits Français sont presque tous des petits paysans, que tous ces petits paysans, tout à coup, accèdent à ce que chez les Romains on appelait l'osium et ce que les Grecs appelaient la skolé, d'où vient le mot skoléion qui donne le mot école, c'est-à-dire la contemplation des idéalités. Des idéalités, autrement dit, de ce qui n'existe pas dans le monde matériel, mais qui permettent de penser le monde matériel et surtout de le transformer. À partir de là, l'État républicain pose en principe qu'il faut former l'attention collective en lui faisant intérioriser des mnémotechniques et essayer, dans un monde qui ne cesse de se transformer, parce que le monde industriel change sans cesse, de faire en sorte que tous portent leur responsabilité de ce changement, l'intègrent, l'adoptent et y contribuent démocratiquement. C'est ce qu'on appelle la démocratie industrielle. Au XXe siècle, après Henry Ford, qui reprend à son compte les idées de Taylor, etc., et qui va donc développer le nouveau modèle industriel qui pose en principe que le producteur est aussi un consommateur et qu'il peut consommer ses propres produits. Mais qui sait également que, je ne sais pas si Henry Ford a lu Karl Marx, mais il sait que ce que dit Marx lorsqu'il parle de baisse tendancielle de taux de profit n'est pas une chose fausse. C'est-à-dire qu'il y a un problème de surproduction. Et qu'il faut donc sans cesse réactiver le désir des consommateurs pour écouler tout ce qui est l'innovation qui arrive sur les marchés. Parce que c'est ça le monde industriel, c'est un monde d'innovation permanente. Il va, on dit Taylor c'est celui qui invente, Ford c'est celui qui concrétise l'organisation du travail à la chaîne avec les idées de Taylor, c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi, surtout, celui qui pense le consommateur. Au moment où un autre personnage très important, beaucoup moins connu, qui s'appelle Edward Bernays, qui était le neveu de Freud, dit si on veut que le consommateur consomme, il faut capter sa libido, c'est-à-dire son attention. Et à partir de là, va se développer toute une réflexion sur le pouvoir des médias de masse, et en particulier des objets temporels industriels comme le cinéma, puis la radio, puis la télévision, pour faire en sorte que l'attention des individus soit captée par ces médias vers les marchandises. Or, la conséquence de cela, c'est que les industries de programme vont se retrouver en concurrence avec ce que j'appelle les institutions de programme. L'école, le collège, le lycée, l'université sont des institutions de programme. Ce sont des institutions qui sont en charge d'élever la conscience individuelle et collective en faisant partager un savoir et des mnémotechniques d'accès à ce savoir, mais aussi de production de ce savoir. Car si on veut que les individus partagent le savoir, c'est parce qu'on veut aussi qu'ils produisent ce savoir et que chaque individu, le meilleur, pas forcément le plus riche, en effet, puisse contribuer à l'invention. Nous sommes dans le monde humain est un monde négantropique. Il s'agit de produire de la négantropie, c'est-à-dire de la diversité, de l'altérité, de l'avenir. Mais, pour cela, il faut créer un processus de formation de l'attention, dès la maternelle jusqu'au Collège de France, comme disait un sociologue bien connu. Alors, ce programme, qui est la base de la démocratie industrielle de la Troisième République, disons, va être bouleversé par le XXe siècle. En fait, surtout la deuxième moitié du XXe siècle, car les industries de programme apparaissent vraiment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, les Français écoutent la radio à 45%, ça veut dire que 55% n'ont pas de radio, et la télévision n'existe pas encore. Par contre, à partir de 1960, disons 58, jusqu'à nos jours, ça fait la Ve République, les industries de programme deviennent le cœur de la vie politique. Alors là, il y a un danger. Et nous, aujourd'hui, quand je dis nous, je parle d'Ars Industrialis, nous appelons la population à manifester son souci du fait que des études ont fait apparaître, d'innombrables études, nous en avons recensé des dizaines, aux États-Unis en particulier, ont fait apparaître que les industries de programme qui captent l'attention, en particulier des enfants, et peut-être avez-vous vu cette campagne dans le métro de Canal J qui dit... le grand-père, le père ennuient les enfants, nos enfants méritent mieux que ça, ils méritent Canal J, ce qui est scandaleux. Car en aucun cas, la télévision ne peut et ne doit se substituer aux parents, sinon il n'y a plus d'autorité parentale, il n'y a plus de transmission symbolique, parce que ce sont les parents qui transmettent le symbolique. C'est aussi la destruction de l'école, parce que c'est l'autorité du maître qui est également mise en jeu. Et là, il y a un danger de lutte entre les industries de programme et les institutions de programme. Il y a plus qu'un danger, il y a un fait, mais il faut réguler cette lutte. Il faut empêcher que les institutions de programme soient détruites par les industries de programme, et il faut que les industries de programme se remettent au service des institutions.
Vous avez des données chiffrées qui confirment ça ?
Des données chiffrées, oui, je pourrais vous en donner, je ne les ai pas là. Ce que je peux vous dire, c'est que on sait, il y a une étude toute récemment qui a été faite, je crois, par la Caisse d'allocation familiale, qui a montré que les adolescents de 14 ans qui regardent la télévision 3 heures par jour ont 80% moins de chances en moins que ceux qui la regardent moins d'une heure de faire des études supérieures. Toute classe sociale confondue. C'est pas du tout une affaire de classe sociale. Ça, c'est très très grave. Bon. Monsieur le docteur Zimmerman, psychiatre des États-Unis, a publié un article dans Psychiatrics, le numéro de mai tout récemment, qui a démontré que les bébés, aux États-Unis, les bébés de 3 mois regardent la télévision à 40%. Télévision, nouveaux médias, DVD, jeux vidéo, etc. Alors, souvent, les gens disent, mais un enfant de 3 mois n'a pas d'attention constituée, donc ça n'a aucun effet sur lui, c'est pas vrai du tout. Si vous mettez un écran devant un bébé, il regarde l'écran. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de synthétiser ce qu'il voit, mais il est capté. Et donc, et il est neutralisé dans sa vie motrice. Il change le fonctionnement. Ces enfants qui regardent la télévision de manière précoce, à 3 mois, 40% des enfants américains, à 3 ans, 90%, ont des problèmes de déficit attentionnel à 7 ans, avérés par la psychiatrie américaine. Donc, il y a là un énorme problème.
Bernard Sigler, excusez-moi, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître naïve, mais est-ce que c'est lié au programme que regardent les enfants ou est-ce que c'est lié uniquement au fait de regarder la télévision? Et est-ce que s'ils regardaient des émissions plus qualitatives, on n'aurait pas ces chiffres-là?
Je vous avoue que je ne sais pas vous répondre. C'est un des aspects sur lesquels nous allons travailler l'année prochaine à Ars Industrialis.
Tout en imaginant que les enfants ne regardent pas des débats politiques, mais est-ce que la qualité des émissions est en compte?
J'aurais tendance à penser que, quelle que soit la qualité, laisser un enfant, en particulier un bébé, alors ça j'ai une discussion directement avec des pédopsychiatres qui me le confirment de manière formelle, c'est très mauvais. C'est comme si je vous disais...
Uniquement la captation d'une émission par un enfant qui est dans vos bras.
C'est comme donner du très bon vin ou du très mauvais vin à un bébé. Du vin, c'est très mauvais pour un bébé. Il n'y a rien à faire, même s'il est très bon. On sait très bien que le bon vin est bon pour la santé. Quand j'étais jeune, je faisais de l'aviron, et mon médecin sportif disait « bois un verre de Bordeaux quand tu vas faire de l'aviron ». Le vin a des qualités, mais pas à n'importe quel âge. À 2 ans, on ne donne pas du vin à un enfant, ni même à 10 ans d'ailleurs. Donc, il y a un problème. Après, je ne veux pas dire qu'il faut interdire toute relation aux images animées aux enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des âges de ce que j'appelle le pharmacon. Pour moi, toutes ces choses sont des pharmakas, ce que les Grecs appelaient des pharmakas, c'est-à-dire à la fois des remèdes, ça sert à élever, mais aussi des poisons.
Le pharmacon, c'est aussi le bouc émissaire dans la Absolument. Pensée grecque. Donc ça nous renvoie peut-être à la question de savoir qui est le responsable. Comment est-ce que tout cela a influé et va influer à moyen terme et long terme sur le fonctionnement des institutions démocratiques? Est-ce que nous allons avoir une tendance, à votre avis, longue devant nous, où le spectacle du monde donné par les médias, qui reste malgré tout... Et Internet y participe extraordinairement passif, parce que les gens sont très peu participatifs, en fait, même sur Internet, va donner une sorte de sentiment de résignation devant le cours du monde qu'on ne fait que regarder, quitte à se déclencher des bouffées de violence pour manifester son hostilité. Ou est-ce qu'au contraire, la démocratie va devenir, comme vous l'avez dit vous-même, en retrouvant son nom réel, véritablement participative, et tout ce qui est en train d'émerger, vous avez cité Wikipédia, on pourrait citer les journaux participatifs comme My News, on pourrait citer tout ce qui est en train de naître comme une démocratie électronique, les blogs, mais aussi le fait que les gens non seulement s'expriment eux-mêmes, mais ont envie de construire une décision collective. Est-ce que ça va conduire à une renaissance de la démocratie? Mais est-ce qu'à terme, il n'y a pas aussi un risque qui va au bout de cela? C'est que si on avait véritablement une démocratie pleine et entière, où les gens pouvaient en permanence participer aux décisions, on aurait une sorte de démocratie en direct permanente, où le chef ne serait que, au fond, la traduction de ce qui existe déjà, c'est-à-dire celui qui obéit au sondage de la minute d'avant, qui est donc n'aurait plus... la possibilité de prendre des décisions de long terme, ayant l'obligation permanente d'être sans cesse populaire pour ne pas être viré. Ce qu'on constate déjà d'ailleurs dans les entreprises, où un chef d'entreprise qui n'a pas un cours de bourse maintenu tous les jours est remplacé. Donc est-ce que la démocratie n'est pas menacée dans les deux directions, à la fois par une passivité extrême et par un activisme extrême?
Je suis tout à fait d'accord avec cela, sachant que c'est entre les deux qu'il faut développer une volonté politique. Je crois que ces questions vont devoir faire l'objet d'une volonté collective de trouver de nouvelles règles. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de refondation de la démocratie. Et en effet, la question, c'est le long terme. Il se trouve que ce qui est intéressant dans Internet, c'est qu'à la fois, ça fonctionne en temps réel, donc extrêmement rapide, enfin, pratiquement de manière instantanée, mais en même temps, ça donne du délai, puisque c'est quand même un endroit de l'écriture, et donc du temps différé. Moi, je ne crois pas du tout à la démocratie directe. Je pense qu'il n'existe pas de démocratie directe. La démocratie participative est représentative. C'est là où d'ailleurs je pense que Ségolène Royal a été un peu démagogique, plus qu'un peu, sur ce sujet. La démocratie est toujours représentative. Le problème, c'est que la représentation politique aujourd'hui est discréditée parce qu'elle est... La représentation est devenue professionnelle, c'est-à-dire représentation égale professionnalisme aujourd'hui. Or, en aucun cas, une démocratie représentative ne peut être professionnelle. Tout, le problème n'est pas du tout la représentation, c'est la professionnalisation des politiciens. Par rapport à cela, il faut reconstituer de la représentation, mais une représentation véritablement citoyenne. Et à cet égard, il faut, et c'est vrai dans le domaine politique comme dans le domaine économique, car moi je ne sépare pas économie et politique. Je pense qu'il faut raisonner en termes d'économie politique. Ce qui se passe dans le domaine démocratique et politique se passe aussi dans le domaine entrepreneurial et économique. De même que les citoyens sont de plus en plus dégoûtés par la politique, les consommateurs souffrent par rapport à leur... Ils consomment de plus en plus, c'est bien connu. Mais ils ont un blues de la consommation qui est très bien identifié aujourd'hui par le monde du marketing parce qu'ils ne croient plus à l'avenir, tout simplement, de la société de consommation à cause des problèmes de développement durable, parce qu'ils savent que le court terme n'est pas un avenir et donc ils sont très inquiets. Il n'y a pas de doute qu'il faut refonder une société aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, et c'est le même chantier. Mais c'est un chantier qui suppose de reconstituer ce que j'appelle des milieux associés. On parlait tout à l'heure de la télévision. Qu'est-ce que c'est que la télévision? Je disais, c'est ce qui a imposé le modèle producteur-consommateur dans les relations sociales. Or, les relations sociales, ce sont des relations symboliques. Normalement, un milieu social est symbolique, et un milieu symbolique est ce que Gilbert Simondon, un philosophe français, appelait un milieu associé. Qu'est-ce que veut dire le fait qu'un milieu soit associé? Ça veut dire que tous ceux qui appartiennent à ce milieu contribuent à sa production. Autrement dit, quand je parle, par exemple, je ne parle à quelqu'un qu'en supposant qu'il est capable de reprendre la parole pour me répondre. C'est ce que d'ailleurs Platon appelait la dialectique. C'est ce qui fait que parler, c'est aussi penser. Et c'est aussi s'individuer, comme disait Simondon. Cette relation de réciprocité, c'est ce processus d'association qui fait qu'en parlant, en dialoguant, nous aujourd'hui, nous trois par exemple, nous faisons évoluer la langue. L'air de rien, en parlant, nous faisons évoluer la langue, nous participons à l'évolution du milieu. La coupure industrielle, la division industrielle du travail qui a imposé qu'il y ait des consommateurs et des producteurs a produit ce que j'appelle des milieux dissociés.
C'est-à-dire qu'il y a... Avec aussi des gens qui ont le droit de parler et des gens qui ont l'obligation de se taire.
Exactement. Et ça, ça a produit une situation qui n'est, je dirais pas pré-fasciste, parce que je me méfie de ces importations de modèles historiques comme le fascisme, mais en revanche, une situation de rupture politique et de décrochage politique tout à fait possible, politique, économique, écologique, militaire. Nous savons très bien que la planète est au bord de très gros conflits. Moi, je pense que le milieu Internet est un milieu technique qui permet de reconstituer de l'association et non pas de la dissociation. Mais ça ne se fera pas tout seul, car il permet tout autant de produire du contrôle et de la dissociation, encore pire, avec la biométrie, avec toutes sortes de technologies, les micro-technologies, les nanotechnologies demain, etc. Donc la question, c'est de porter un projet collectif, porté par une politique publique. Quand je dis une politique publique, ça ne veut pas dire une politique à l'écart de l'économie. Pour moi, une politique publique, ça n'est pas forcément sans les entreprises et sans un modèle économique, mais un investissement à long terme. Un investissement à long terme qui dise nous allons réinventer une société dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la participation politique, dans le domaine économique. Par exemple, aujourd'hui, je pense que l'avenir des entreprises ne peut plus se faire sur un modèle à 10, 20 ou 30 ans, avec ces technologies-là, sur un modèle producteur-consommateur. La jeunesse qui est en train de développer ses pratiques sur ces médias n'est plus dans ce modèle du tout. Et donc, il va falloir inventer quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un projet de société. Moi, je dis que ça devrait être le projet de l'Europe. C'est ce que j'appelle « the European way of life ». Rifkin disait « l'Europe peut faire rêver le monde ». Je pense que ses arguments n'étaient pas très bons, pour tout dire. Mais en même temps, il disait quelque chose de vrai, à savoir que l'Europe a une responsabilité par rapport à ça et une vraie capacité, je le crois, à inventer quelque chose, à condition que les pouvoirs publics européens et le monde économique, le monde universitaire, le monde artistique, le monde intellectuel, le monde technologique et scientifique, bien entendu, parviennent à travailler ensemble à inventer ce modèle.
Bernard Stiegler, est-ce que c'est ce que vous appelez la démocratie d'épanouissement?
C'est ce que j'appelle l'osium du peuple. Pour me moquer un petit peu de mon cher Karl Marx, que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours.
C'est un grand philosophe. Il n'est pas l'auteur de la formule. Hein.
Pardon ?
Il n'est pas l'auteur de la formule. Il a repris
un autre théoricien. Mais il en a fait quand même.
Il lui a donné sa gloire.
Une espèce de leitmotiv ravageur en réalité. Ravageur. Car ce que n'a pas compris Karl Marx, c'est que l'économie politique, ça se joue dans le symbolique. Lui, il se disait matérialiste. Moi, je me suis longtemps dit matérialiste. Aujourd'hui, je ne me dis plus exactement matérialiste, je me dis matérialiste spiritualiste. C'est-à-dire que je veux dire que l'esprit passe par la matière. Il n'y a pas d'esprit qui ne soit pas incarné dans une technique. Dans ce que Husserl, le philosophe allemand, appelait un objet investi d'esprit. Il disait, par exemple, un livre, c'est un objet investi d'esprit. Comme un shuringa est un fétiche du sorcier, etc. Les nouvelles technologies, ce qu'on appelait auparavant les nouvelles technologies, ce qu'on appelle maintenant les nouveaux médias, sont aussi des objets investis d'esprit, ou investissables, disons, par l'esprit. Mais il faut une politique de l'esprit, comme l'appelait d'ailleurs une économie politique de l'esprit, comme disait Paul Valéry. Et donc, je crois qu'il faut redévelopper un notium du peuple, qui soit une manière de faire que ce que j'appelle le peuple, c'est l'unité nationale ou l'unité européenne, hein, c'est ça qu'on appelle le peuple, c'est ce qui permet d'unifier une diversité. Qui n'est justement pas l'ethnie, parce qu'il y a cette diversité-là possible, ça passe par l'affirmation de la possibilité pour tous d'accéder à ces technologies de l'esprit, de les intérioriser et d'en tirer le meilleur possible, pas uniquement pour des nécessités économiques que j'appelle subsistentielles, mais pour développer un épanouissement, en effet, existentiel, et pour accéder à ce que j'appelle les plans de consistance. Les plans de consistance, pour moi, sont les choses qui n'existent pas. Alors les choses qui n'existent pas, depuis Newton, on a tendance à les mépriser. Mais les choses qui n'existent pas, c'est extrêmement important. Le point géométrique, par exemple, n'existe pas. C'est un concept. Il n'est que dans l'imagination du géomètre. Mais c'est lui qui permet de penser le réel et de transformer le réel. C'est l'imagination qui permet de transformer le réel. L'imagination, comme on le sait depuis Freud et Jacques Lacan, c'est la source du désir. En réalité, le problème du savoir, le problème de la transmission de savoir et le problème de l'économie, comme l'avait bien compris Henry Ford, c'est le désir. Il faut reconstituer du désir. C'est ce que disait aussi Aristote, pas de polis, de société politique, sans philia, c'est-à-dire sans amour. Philia, ça vient de philéine, qui veut dire aimer en grec. Il faut une politique de la philia.
Est-ce que reconstituer le désir, l'envie de désir, le besoin de désir, justement, c'est pas demander au peuple de plus participer à la démocratie et justement aller vers une démocratie directe, intuitive, beaucoup plus forte et beaucoup plus présente?
Je dirais pas une démocratie directe. Je pense qu'une démocratie directe n'est pas une démocratie. La démocratie directe, pour moi, c'est ce qui prépare la fin de la démocratie. C'est le populisme qui conduit presque toujours à des grandes catastrophes politiques, y compris le nazisme, c'est fusionnel, c'est extrêmement dangereux. La démocratie est indirecte, parce que la démocratie, c'est le temps de la délibération. Donc, c'est le temps différé. En revanche, la participation si très intense de tous, oui, ça, c'est la démocratie. Mais je crois qu'il faut reconstituer ce que j'appelle des circuits de transindividuation. Je veux dire par là que pour qu'un individu participe à la vie démocratique, il faut qu'il soit formé. Là, sur ce point, je suis en désaccord avec Jacques Rancière. J'estime par ailleurs Jacques Rancière pour toutes sortes de raisons. Mais Jacques Rancière dit « la démocratie, c'est ce qui donne la voix au chapitre à n'importe qui ». C'est pas vrai. N'a pas voix au chapitre n'importe qui. N'a voix au chapitre que celui qui est passé par le skoleion en Grèce ancienne. Et c'est pareil chez les Romains, c'est Henri René Maroux l'a très très bien montré. En fait, ce qui permet la base de la démocratie, c'est aussi ce qui permet la base du culte religieux, la base du rituel magique, ce sont des rites initiatiques ou des enseignements. Il faut être introduit dans la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, on ne peut s'y introduire qu'à travers ce que j'appelle des organas ou des pharmacas, c'est-à-dire des techniques qui correspondent à celles de notre époque. Ces techniques permettent ce que vous décrivez, c'est-à-dire une très grande participation, très rapidement, de tous. Et je pense, moi, qu'on peut développer une productivité politique, une productivité démocratique. On peut augmenter la productivité, c'est-à-dire aller beaucoup plus vite dans la décision, etc. Mais par contre, ça n'est pas de la démocratie directe. C'est de la démocratie beaucoup plus efficace, beaucoup plus participative, beaucoup plus puissante, beaucoup plus manipulable aussi. Il ne faut pas se cacher ça. À l'origine de la question du savoir occidental est Platon. Or, qui est Platon? C'est celui qui a accusé les sophistes de monopoliser les no-techniques de son époque, l'écriture, pour manipuler les esprits et produire ce que j'appelle des courts-circuits dans la transindividuation. Platon disait « l'hypomnésis, c'est-à-dire la mémoire artificielle, risque de détruire entre les mains des sophistes ce qu'il appelait l'anamnésie, c'est-à-dire la réflexion par soi-même ». Et aujourd'hui, nous sommes confrontés exactement à la même question. Il n'y a pas de raison que la télévision ou que Internet ne permettent pas de développer l'esprit critique, ne permettent pas d'épanouir l'individu, y compris chez les enfants, mais à une condition, c'est de lutter contre la nouvelle sophistique.
Alors vous pensez par exemple, pour être très concret, que le vote électronique est quelque chose qui ne devrait pas être à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que voter dans l'instant ou de façon intuitive par rapport à une décision politique ne devrait pas se mettre en place.
Alors,
ne permettra pas en tous les cas
de... Moi, j'ai signé une pétition contre les machines à voter. Pour plusieurs raisons. Il y a une raison qui est d'abord le danger de manipulation qui est réel. Je connais très très bien l'informatique, je sais à quel point c'est extrêmement compliqué.
Par les machines.
Oui, c'est extrêmement compliqué de garantir un contrôle démocratique sur cette technologie-là. Bon. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle je me suis opposé au vote par les machines à voter. C'est une raison symbolique. Et moi, je pense que la politique, c'est d'abord du symbolique. Or, je disais au commencement de cette émission que pour penser à la politique, il faut penser en termes d'organologie politique. Organologie, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'ils pensent les artefacts, la technologie politique, mais c'est aussi ce qu'ils pensent les relations entre le corps et le collectif. Parce que les organes, nous avons des organes naturels, donc notre corps comporte un cerveau, un foie, un cœur, des mains, des yeux, un visage qui est plus ou moins gracieux, etc. Ça compte. Nous avons des organas, c'est-à-dire des stylos, des papiers, des PDA, des téléphones portables, des ordinateurs, ce sont des organes techniques. Et puis, nous avons des organes sociaux qu'on appelle les institutions, les organisations sociales, les SAS, les sociétés anonymes simplifiées, les organisations économiques. Ce sont ces trois dimensions qui font ce que j'appelle l'organologie politique ou d'ailleurs économique, etc. Or, dans ces dimensions... on ne peut pas éliminer une dimension. Supprimer l'isoloir, pour moi, c'est supprimer le corps du votant. Et ça, c'est très grave. Parce que le fait d'aller dans un lieu de vote, de rencontrer des gens qui votent comme vous et moi, de voir ce qui se passe, de voir le dépouillement, c'est absolument, à mon avis, capital dans la conscience politique. Donc je suis contre le développement des machines à voter.
Ça pourrait influer sur la décision prise par celui qui vote.
Ça le dématérialise. Ça déculture, ça détruit la culture politique. Si vous voulez, la culture politique, ça passe aussi par le fait de voir des choses. C'est très important. Par exemple, je trouve que c'est très très bien qu'il existe une chaîne parlementaire. C'est très important de pouvoir voir les parlementaires débattre, etc. Après, quel usage qu'on en fait, c'est une autre question. Tout ça est très très important. Walter Benjamin avait beaucoup parlé de ces questions dans les années 30.
Où sera à votre sens le vrai lieu de la démocratie? Est-ce qu'il sera à l'échelle la plus vaste possible, c'est-à-dire l'échelle européenne, qui aujourd'hui semble être l'échelle à la taille de la globalisation? Est-ce qu'il sera à la taille de l'État, où il y a aujourd'hui les principaux instruments de la souveraineté, en commençant par l'armée et les problèmes de protection des citoyens qui sont... Ou est-ce que ce sera à l'échelle de la commune, qui est aujourd'hui l'échelon de proximité le plus sensible?
Ça dépend pour quelle dimension. Je pense que la politique industrielle, par exemple, qui, à mon avis, est le cœur du problème, parce qu'il faut changer de modèle industriel. Il faut abandonner producteurs-consommateurs, il faut rentrer du côté de ce que j'appelle, moi, les amateurs, les contributeurs. Ça, c'est une politique au niveau de l'Europe. Si on n'a pas le niveau européen, on n'a pas la masse critique pour faire ce type de changement. Ce n'est pas parce que l'État national et jacobin, par exemple, est apparu que les régions ont disparu. Donc je ne pense pas que l'Europe fera disparaître les États. Il y a des choses qui doivent se maintenir au niveau de l'État. Très franchement, aujourd'hui, je ne sais pas exactement lesquelles. Je ne crois pas que, par exemple, une université européenne soit prête aujourd'hui à développer. En revanche, je pense qu'une industrie européenne est prête à se développer parce qu'il y a tout l'acquis de Airbus, même si on sait qu'Airbus a posé toutes sortes de problèmes. On sait faire maintenant. Il y a des programmes européens qui fonctionnent. L'université européenne, le LMD, ça ne marche pas du tout en France. Il faudra peut-être que ça change. Mais je pense qu'on n'en est pas encore à ce stade-là. Réactiver, relancer la commune ou le niveau régional, c'est très très important. En réalité, moi, je raisonne en termes de capillarité. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y a un niveau qui doit s'imposer aux autres. Je pense qu'il faut que capillairement, ces niveaux s'agencent et arrivent à travailler ensemble. Mais là, c'est aussi une question d'organologie politique.
Vous avez employé tout à l'heure le mot d'amateur-contributeur qui renvoie assez précisément à ce qui se passe sur Internet et en particulier aux nouveaux médias où les auditeurs, on le voit d'ailleurs déjà à la radio, apportent des informations sous contrôle ou par contrôle de journalistes. Et où on n'a en effet plus de distinction entre le professionnel et l'amateur. De même, on le voit en musique, où les amateurs commencent à jouer un rôle de plus en plus grand. Comment est-ce qu'on peut imaginer de traduire ces nouveaux concepts dans la pratique politique? Est-ce que ça veut dire que les citoyens seront de plus en plus appelés par ce qu'on a appelé des jurys populaires à participer à la décision des élus? Est-ce qu'on peut imaginer, au contraire, que les élus feront appel à des fonctionnaire amateur qui viendrait des citoyens et qui participerait à l'exécution et non pas à la prise de décision ni au contrôle. Comment est-ce que vous voyez ce mélange?
Bernard Stiegler.
Mais là aussi, je pense qu'il y a une question d'organologie. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, je travaille beaucoup sur les Wikipédia, toutes ces technologies collaboratives, etc. Et je m'intéresse énormément à open source parce que, y compris quand j'étais directeur de l'IRCAM, j'avais une partie de mon activité commercial qui se faisait en open source, en logiciel libre. L'IRCAM est une PME qui vend des logiciels dans le monde entier. Et je suis très convaincu par la puissance de ce modèle. Je ne pense pas qu'il soit applicable à tout, que ce soit la panacée universelle. Mais en revanche, je pense que c'est un modèle qui va se développer énormément. Mais la question, c'est de donner des instruments, je vais dire, j'employais un mot qui n'a pas bonne presse aujourd'hui, d'administration de réseau. Je veux dire par là que le problème aujourd'hui de Wikipédia, par exemple, c'est que vous ne pouvez pas tracer la nature des débats qui se mènent sur les articles. J'ai rencontré il y a 2 mois à Chicago un informaticien qui a travaillé chez IBM et au MIT, qui a fait un logiciel d'analyse des polémiques sur Wikipédia. C'est extrêmement intéressant. Il avait pris d'ailleurs une polémique sur la question des territoires occupés d'Israël. Donc c'était quelque chose de très très polémique. Et il montrait comment on pouvait tracer les choses. Mais il l'a fait, je dirais, en travaillant dans le back-office de Wikipédia. Mais les gens qui lisaient Wikipédia n'ont pas accès à ce genre de choses. Il faudrait développer des logiciels d'annotation. Ça, c'est le problème du Web 3, voire du Web 4. Des logiciels qui permettraient d'administrer des débats de manière très approfondie et en permettant à des individus de devenir des représentants du collectif. Pas des représentants professionnels, des représentants amateurs, mais qui seraient, quelque sorte, élus ou choisis par les contributeurs, par les autres amateurs, pour les représenter. Ça, je crois que la syndication, vous savez bien que sur Internet, c'est une question fondamentale, il y a une nouvelle syndication politique à mettre en place avec ces outils-là. Après, si nous voulons que ça se développe dans le domaine politique, il faut que ça se développe aussi dans le domaine économique. Pour moi, on ne peut pas séparer les deux. Et à cet égard, il est très important de faire en sorte que le monde économique comprenne qu'il faut qu'il arrête de raisonner en termes de clients et de fournisseurs. De même qu'il n'y a pas des producteurs et des consommateurs, il n'y a plus des clients et des fournisseurs, il y a des contributeurs.
Il y a des modes. Le monde économique, là, c'est bien compris, il le fait déjà avec les panels de consommateurs qui sont déjà de plus en plus associés à la production. Et on le voit dans l'évolution des grandes industries où pratiquement tous les objets sont maintenant sur mesure, puisque la variété d'une automobile qui peut être livrée est déjà extraordinairement grande. Mais en politique, on en est très loin.
Je dirais que je pense qu'en industrie aussi. Parce que ce que vous décrivez, pour moi, c'est ce que j'appelle de la particularisation et de l'optionnalisation. De la singularité. Mais du coup, c'est une destruction de la singularité. Je crois que dans le monde industriel, et en particulier des industries du luxe, des industries du loisir, des industries symboliques, on peut aller infiniment plus loin et non pas simplement faire de la particularisation, ou ce qui est traduit parfois par de la tribalisation, c'est-à-dire on hypersegmente les marchés. Ça, c'est de l'option. C'est le même modèle que dans l'automobile appliqué.
Vous voulez dire aller jusqu'à remplacer le fait d'écouter de la musique ou d'enregistrer ou d'acheter un disque par le fait de faire de la musique soi-même.
Absolument, ou de contribuer à modifier quelque chose qui était fait par
quelqu'un d'autre. C'est ce que fait le DJ, par exemple.
Absolument. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui peut aller extrêmement loin, en économie comme en politique. En politique, aujourd'hui, il est tout à fait possible. Moi, je travaille en ce moment à l'IRI, au Centre Georges Pompidou, sur un logiciel de lecture collective qu'on développe en fait pour les séminaires que nous faisons au Centre Pompidou, de lecture collective qui permettent. Pendant des séminaires, ça s'adresse surtout à des chercheurs hein, pour le moment, mais nous voudrions le développer ensuite dans un projet qui s'appelle une revue qui s'appelle L'Amateur, qui est un projet de revue où les lecteurs sont aussi des contributeurs. Mais ce ne sont pas des contributeurs, je dirais, démagogiques, comme le courrier des lecteurs. C'est très bien qu'il existe un courrier des lecteurs, et c'est souvent très très bien fait dans un certain nombre de nos quotidiens. Mais on peut aller infiniment plus loin que cela. On peut faire que les lecteurs deviennent des penseurs de la revue, à condition d'administrer tout ça avec des instruments qui n'existent pas actuellement. Pourquoi est-ce qu'ils n'existent pas? Parce que tous ces instruments sont développés uniquement pour les marchés solvables, de la bureautique, de l'expertise comptable, de ces choses-là. Et il faudrait que l'État, ou l'Europe surtout, investisse dans cette révolution industrielle qui est en train de se jouer, qui est celle des industries du savoir, et pour lesquelles il faut être capable d'investir sur 10, 15 ou 20 ans, sur une génération entière. C'est du long terme. Il n'y a pas de marché aujourd'hui accessible. Par contre, l'avenir passe par là.
Pour terminer sur une provocation, une question provocante, si on va au bout de votre raisonnement, me semble-t-il, vous en êtes à dire qu'il faudra peut-être un jour remplacer, corrigez-moi si je me trompe, remplacer le processus électoral de vote par des webs de quatrième génération qui permettront progressivement aux gens de faire émerger des intermédiaires qui seront les acteurs les plus, les amateurs les plus, disons, visibles, les plus influents dans le système. Donc ça créera une démocratie par logiciel. Et en même temps, vous vous opposez au début de cette démocratie par logiciel qui est le vote électronique. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ?
Si, si, mais en fait, je ne suis pas du tout sûr qu'il faille supprimer le vote incarné, si je puis dire. Aujourd'hui, on a un président de la République, M. Sarkozy, il a été bien élu d'ailleurs. J'espère qu'il va s'intéresser aux questions dont nous parlons, ça me paraît fondamental. Il est très ambitieux et j'espère qu'il va porter son ambition de ce côté-là. Mais je ne connais aucun système humain, aucune société humaine qui ne passe pas par une incarnation. Donc une incarnation en chair et en os. Moi je ne crois pas aux avatars. Je crois beaucoup aux avatars, mais sauf que le livre est un avatar. Enfin, le fétiche est un avatar. Il y a toujours eu des avatars. Le virtuel, ce n'est pas du tout une chose nouvelle. Nous changeons de technologie de virtuel, mais le virtuel, il y en a toujours eu. C'est ça, c'est l'imaginaire, le virtuel. Mais le virtuel a besoin de se réaliser, de s'incarner, y compris de passer à l'acte, si je puis dire.
Ou d'être accompagné.
Et d'être accompagné, et de s'incarner, et d'être incorporé, pour devenir du désir, précisément. Donc, je ne suis pas sûr que le vote disparaisse. Peut-être. Franchement, je ne suis pas capable de le dire. Je n'ai pas de tabou là-dessus, d'ailleurs. Mais en revanche, je pense... Je répète ce que je disais tout à l'heure, l'organologie, ça se joue toujours sur les trois plans, du corps, de la technique et de la société. Le corps comportant le cerveau aussi. Et le cœur, surtout le cœur.
Merci Bernard Stiegler.
Merci à vous.
Merci.
Jacques Attali, est-ce qu'à l'inverse de Bernard Stiegler, vous croyez en une démocratie totalement virtuelle et instantanée pour 2050 ?
Ah oui, je suis convaincu qu'on aura fait des progrès formidables dans la gestion électronique de la démocratie et que dans les pays les plus avancés, que ce soit imposé par le droit ou que ce soit imposé par les faits, il y aura une instantanéité de l'adhésion. Elle est déjà partout. Elle est déjà partout dans la façon dont on supprime une émission de télévision si elle n'a pas fait le bon sondage, dans la façon dont un produit est changé chaque jour s'il n'a pas le bon accueil du public, dans la façon dont un cours de bourse détermine le sort d'un dirigeant d'entreprise.
Dans la mesure où les sondages en politique aussi sont de plus en plus sophistiqués, détaillés, précis, immédiats, et où les hommes politiques ont un mal fou. Regardez, de semaine en semaine, quand un sondage donne l'impression qu'une décision qui va être prise n'est pas populaire, on ne la prend plus. Et les hommes politiques qui sont de plus en plus en élection permanente vont être de plus en plus en situation de ne pas pouvoir décider du long terme. Mais c'est donc toute la question de savoir si nos sociétés vont pouvoir concilier les deux objectifs apparemment nécessaires, urgents, fondamentaux, qui sont la liberté et le long terme. La liberté, évidemment, chacun en veut, mais le long terme aussi, chacun sait que c'est important. Or, la liberté, c'est d'abord chacun pour soi, moi d'abord, maintenant, et ce n'est pas l'intérêt des générations suivantes, qui ne votent pas. On voit des hommes politiques aller souvent dans les maisons de retraite, on ne les voit jamais aller dans les crèches, parce que les enfants dans les crèches ne votent pas. Donc ces deux objectifs contradictoires vont être au cœur du débat sur l'avenir de la démocratie. Et c'est pourquoi on peut craindre que si la démocratie n'est pas capable, dans les décennies qui viennent, de redonner sa chance au long terme, c'est-à-dire de trouver une réponse démocratique au problème de l'environnement, au problème de l'énergie, au problème des migrations, au problème de l'eau, au grand problème du long terme de la société humaine, eh bien l'humanité dira, écoutez, non, la démocratie, c'est pas le meilleur des systèmes, puisque la démocratie nous conduit au suicide. Il vaut mieux faire confiance soit à la théocratie qui nous donne un avenir immortel, soit à la dictature éclairée qui nous permet de penser le long terme. Ceci d'autant plus que, comme l'a dit d'ailleurs très bien Bernard Stiegler, nous sommes de plus en plus dans des démocraties fictives, où le pouvoir appartient d'autant plus aux entreprises que le marché a pris le pouvoir sur la démocratie et où le vote a de moins en moins d'importance et de moins en moins d'influence sur le destin des hommes.
Justement, est-ce que les entreprises n'ont pas une grande longueur d'avance dans la mise en place de la démocratie participative avec les actionnaires qui votent et font monter ou descendre les cours de bourse ?
On peut espérer que ça ne soit pas le cas, puisque en réalité, une entreprise est composée de plusieurs acteurs. Il y a les actionnaires, il y a les salariés, il y a les consommateurs, il y a la société dans laquelle travaillent les entreprises. Or, aujourd'hui, en effet, si démocratie il y a dans les entreprises, c'est une démocratie qui est limitée à un seul des acteurs de l'entreprise, qui est l'actionnaire. Et c'est d'ailleurs tout à fait comme ça que s'explique le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les richesses produites par les entreprises ne vont plus aux salariés, ne vont plus aux consommateurs. Elles vont surtout aux actionnaires. Elles vont aussi un peu aux consommateurs, parce que les consommateurs obtiennent des baisses des prix, mais elles ne vont plus du tout aux salariés. Donc il y a un vrai danger, comme si ce danger se généralise dans la démocratie. Alors on verra revenir, comme on le voit déjà, une sorte de démocratie censitaire, où les plus puissants peuvent influer, ce qui sera d'ailleurs d'autant plus le cas si les décisions sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à prendre, de plus en plus techniques. Et où seuls ceux qui auront, d'une façon ou d'une autre, accès à l'information pourront l'obtenir. Avec en plus le fait qu'une démocratie, ça suppose une véritable transparence dans l'information, une véritable honnêteté de l'information. Et on a vu avec Claude Allègre combien il va être de plus en plus possible d'influer sur le cerveau, non seulement d'influer sur le cerveau pour lui vendre des produits, mais d'influer sur le cerveau pour lui faire croire des choses. Donc la démocratie, c'est avant tout aujourd'hui une question de savoir comment les citoyens pourront connaître la vérité, pourront connaître les véritables sources des informations qu'ils reçoivent. Et en cela, la diversité des sources d'informations, le caractère contradictoire, le droit de penser autrement, le droit de s'exprimer de façon marginale, le droit de ne pas être comme les autres, va être la clé de la démocratie. Sans déviant, et sans déviant admis et non pas considéré comme fou, il n'y a pas de démocratie.
Mais alors, est-ce que vous croyez qu'un mode de décision, par exemple le vote électronique, pourra influer sur le type de décision prise ?
Bien sûr, si vote électronique il y a, et vote électronique systématique, le vote électronique à ce moment-là n'a plus besoin d'être une fois tous les 5 ans, puisqu'on pourra de façon systématique prendre des décisions de façon commode. Et donc on pourra convoquer les électeurs tous les matins dans leur chambre au petit déjeuner, et pas tous les 5 ans comme on fait maintenant.
Donc, votant sur son téléphone ou par Internet.
Oui, mais le téléphone portable va devenir bientôt l'outil qui permettra de commander l'ordinateur, d'ouvrir la porte, de passer les commandes, de payer.
On éjecte déjà des candidats dans des émissions de télévision par téléphone.
Et on pourra dire qu'à midi, on va tous voter pour savoir si on garde le président de la République la semaine suivante. On peut très bien imaginer ça. Les milliards de téléphones portables permettront de prendre ces décisions.
En fait, tous les outils qui vont construire la démocratie de dans 50 ans sont déjà en place, mais elle n'est pas encore dessinée. À quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler ?
Elle ressemblera soit
au néant, parce qu'il est possible que la démocratie disparaisse et qu'on est dans un monde de chaos, de désordre, de dictature. Elle peut aussi ressembler à une démocratie participative avec des gens qui participent aux décisions par des débats réels dans les villes et que les villes soient de plus en plus autonomes par rapport aux États qui se feront plus faibles et où la véritable prise de pouvoir se fera dans les instances communautaires et donc où on assistera à des débats et à des prises de décisions participatives dans les communes. On peut imaginer aussi une démocratie beaucoup plus sophistiquée où des logiciels informatiques permettront progressivement de faire émerger des consensus par des débats électroniques qui font surgir des acteurs intermédiaires avec des logiciels assez sophistiqués. On peut imaginer aussi qu'un grand nombre de décisions soient plus soumises à la démocratie puisqu'on les aurait sous-traitées à des instances savants, un peu comme les commissions d'éthique, les commissions diverses qui sont en train de prendre le pouvoir et qui ne sont démocratiques que parce qu'elles sont désignées par des instances démocratiques, laissant aux démocraties le simple choix de diriger, donner des hommes qui dirigent les autres dans les orientations générales, la décision de la paix ou de la guerre et les grandes mutations stratégiques d'alliance. Le reste faisant en quelque sorte l'objet de décisions automatiques ou d'experts. Puis on peut aussi imaginer qu'un jour, et à 50 ans d'ici, ça sera le cas, soit en place quelque chose comme un gouvernement mondial qui pourrait décider de sauver et de protéger tout ce qui est essentiel à la vie elle-même, l'eau, l'énergie, mais aussi la liberté, donc la démocratie.
C'était Le Sens des choses avec Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini, à la réalisation Gilles Davidas, à la technique Serge Ristich. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site franceculture.com, la réécouter ou encore la podcaster. Vous pouvez également nous envoyer un email en nous écrivant à l'adresse suivante j@attali.com. Dimanche prochain, nous nous retrouvons toujours à 17h pour parler de l'avenir du Moyen-Orient avec l'ancien secrétaire des Nations Unies Boutros Boutros-Ghali qui nous recevra dans son bureau du Haut Conseil de la Francophonie.